I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jour 1, jour 2 pour être exact. Hier, Sébastien Martinez m'a donné des tips pour apprendre l'espéranto. Et il m'a dit, ah, commence chaque leçon, chaque jour, en révisant ceux de la veille. Et je me suis dit, je vais ouvrir un Google Doc et je vais essayer de me souvenir des 7 mots que j'étais censée apprendre hier. Je me souviens que petit déjeuner, c'était Mangen Mongo. Manten Mongo.
Dans le premier épisode, le champion et formateur en mémoire Sébastien Martinez m'a aidé à me lancer dans ce défi d'apprendre 100 mots d'espéranto en 7 jours. Il m'a aidé à trouver des points de comparaison entre le vocabulaire français et sa traduction. Et parfois, même si dans ma tête c'est clair, soyons honnêtes, ça sonne un peu bizarre.
Mauvais, c'est achat ou achat, parce que c'est comme les gens qui achoum dans la tête, c'est comme le fromager qui achoum, c'est pas bien.
Petit point de culture générale pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'espéranto. L'espéranto, c'est une langue entièrement imaginée au 19e siècle, dans le but d'établir une langue internationale, neutre, entre les différentes cultures. Bon, c'est râpé, vu qu'aujourd'hui, quand on voyage, la langue neutre, c'est plutôt l'anglais. Mais ça n'empêche pas des millions de personnes à travers le globe de continuer à apprendre et pratiquer l'espéranto. Moi, si j'ai choisi cette langue pour ce défi, c'est surtout pour des questions pratiques. Pour que le défi ait un sens, il fallait une langue dans laquelle je n'avais aucune notion. Et il était plus simple de partir sur une langue qui s'écrit avec notre alphabet. Et puis juste, je trouvais ça cool. Je me disais qu'apprendre l'espéranto semblait un bon début pour devenir Lady Memory.
Devenir Lady Memory, épisode 2. Être synesthète.
La technique de trouver des comparaisons m'a été conseillée par mon formateur. Et dès les premiers jours, je me suis rendu compte qu'elle marchait extrêmement bien. C'est là que je me suis souvenue d'une personne qui m'avait dit être un jour synesthète. Mais faire des comparaisons et faire de la synesthésie sont deux choses différentes. Si vous ne savez pas ce que c'est la synesthésie, Stéphane Eppelbaum, neurologue, explique.
La synesthésie, c'est le fait de percevoir conjointement dans deux modalités sensorielles différentes. Comme par exemple, on perçoit un son et une couleur.
Je ne fais pas de synesthésie et à ma connaissance, personne dans mon entourage n'en fait non plus. Donc le principe, tu parles bien dans le micro.
Ok, ouais. Je parle dans le micro.
C'est sur Twitter que j'ai rencontré Alex, qui a accepté de témoigner sur sa mémoire particulière.
Donc dans mon cas, j'associe une couleur aux lettres de l'alphabet et aux chiffres. Mon cerveau fait ça tout seul, je n'ai aucun contrôle là-dessus, ça se fait juste comme ça. C'est pas une hallucination visuelle, mais c'est vraiment... si un mot est écrit noir sur blanc, je vais le voir noir sur blanc, mais l'image mentale que je m'en fais, elle est colorée. C'est surtout ça qui se passe, en fait. Et voilà, il y a des gens qui voient la musique en couleur, des choses comme ça. Moi, ça s'arrête surtout aux lettres de l'alphabet et aux chiffres. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est pas une hallucination visuelle, mais c'est vraiment si un mot est écrit noir sur blanc, je vais le voir noir sur blanc, mais l'image mentale que je m'en fais, elle est colorée. C'est surtout ça qui se passe, en fait. Ouais, du coup, ça veut dire concrètement que dès que je lis quelque chose, ça va tellement vite dans mon cerveau que c'est quasiment comme si les couleurs elles se superposaient sur l'image.
Par exemple, ton prénom, Alex, si tu l'écris, tu le vois de quelle couleur ?
Alors, je le vois comme un mélange de toutes les couleurs des lettres qu'il compose. Du coup, pour un mot, en vrai, les couleurs, elles ont tendance à déteindre les unes sur les autres. Mais bon, on va dire que je les vois de manière séparée. Donc, mon A, il est rouge, le L, il est gris, mon E, il est vert et mon X, il est gris, mais un peu plus clair. Parce qu'il est embêtant.
Pourquoi il est embêtant ?
Non, mais c'est juste que les lettres de l'alphabet, elles ont des... Enfin, elles ont des couleurs qui sont très... Il y a beaucoup de nuances de gris et de nuances de marron, donc en fait, c'est pas si joli à regarder. Mais j'ai quelques couleurs vives, comme ça. Mais la plupart, c'est surtout des nuances vraiment très subtiles. J'ai déjà essayé à l'ordinateur de reproduire les couleurs. Et en fait, entre un J et un I, la nuance de jaune, elle est presque imperceptible, quoi.
Et c'est pas toi qui l'as choisi, les couleurs ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, si j'avais pu choisir mes couleurs, j'aurais pas choisi que mon I et mon J soient si proches.
Et du coup, comment ça influe ta mémoire ?
Je retiens très, très bien l'orthographe des mots, parce que je les retiens comme, on va dire, un enchaînement de couleurs, en plus d'un enchaînement de lettres. Donc c'est comme si ça faisait une double mémoire pour moi. Donc j'étais toujours très bonne en dictée, et quand je relis les textes, j'arrive à détecter très très vite s'il y a une faute d'orthographe, parce que les couleurs, elles vont être mal agencées. Enfin, il y aura un... je vais me rendre compte très vite, quoi, soit qu'il manque une couleur ou qu'elles sont dans le mauvais ordre. Enfin voilà, quoi. J'apprends les paroles de chansons très très vite. Vraiment très très vite, et j'arrive pas à les apprendre juste à l'écoute, j'ai besoin de regarder le texte. C'est très intéressant de vivre avec ça, parce que je découvre des choses toujours sur la manière dont ça influe sur ma manière d'apprendre. Par exemple, j'ai appris le japonais il y a 2 ans, et donc les caractères japonais, c'était la première fois que je les voyais, et au fur et à mesure que j'apprenais, ils commençaient à prendre des couleurs. Et c'est fascinant de voir déjà que je n'ai aucune prise sur quelle couleur ils prennent, ce qui est vraiment très triste. Donc si le caractère qui veut dire ciel, il est rouge, tant pis pour moi, parce que ça ne va pas m'aider. Mais ouais, c'est vraiment très spécial. Et du coup, je sais quel caractère je ne connais pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore de couleur dans ma tête.
Et du coup, est-ce que pour la mémoire des chiffres, des nombres, ça t'aide pour retenir des dates,
Retenir des dates, c'est compliqué. Je sais pas trop pourquoi. Mais parce que souvent, quand on retient des dates, il faut retenir l'événement qui va avec. On retient jamais une date pour une date, quoi. Et ça, je pense que j'ai du mal. Mais par contre, les numéros de téléphone, je connais le numéro de téléphone de mon père, ma mère, mes amis, tout le monde. Enfin, en fait, je vois l'agencement de couleurs qui correspond à leur numéro. Et c'est très drôle, parce que souvent, il y a des chiffres qui reviennent. Genre, il y a souvent des numéros où il y a des 5... ou bien juste des couleurs qui vont bien ensemble. Et si ça correspond un peu à la personne, ça va marcher tout de suite, quoi. Ma copine s'appelle Lise, et son prénom, il est le S, il est super vif, un violet rose hyper vif. Et son numéro de téléphone, ça fait comme des nuances de violet, quoi. Donc c'est vraiment parfait. Donc vraiment, je sais que son numéro est gravé dans ma mémoire. Je n'oublierai jamais. Quand j'étais très très petite, je faisais de la natation. Et un jour, mon papa a oublié de venir me chercher à la natation. Et j'ai su dire à la dame de l'accueil de la piscine le numéro entier de mon papa pour qu'elle l'appelle. Alors que vraiment, je pense que je savais genre pas très bien écrire. Enfin, j'étais vraiment très très petite. Du coup, moi, je trouve que c'est quand même un bon indice que déjà à l'époque, j'arrivais bien à retenir, quoi, les trucs.
Est-ce que t'as quelque chose que t'as envie de dire aux gens qui ne sont pas synesthètes ?
Soyez indulgents quand on est nazi de l'orthographe. Et désolée d'être nazi de l'orthographe, mais c'est important, sinon je ne peux pas lire le mot.
Et est-ce que tu penses que sans ça, tu n'aurais pas une aussi bonne mémoire ?
Ouais. Sur le reste des choses, j'ai pas une très bonne mémoire. Il y a vraiment que sur l'orthographe des mots ou les numéros de téléphone que vraiment je suis très pointue, et j'écris quasiment sans faute et tout ça. Mais ouais, si je voyais pas les lettres en couleur, je pense que je serais pas aussi bonne. Ouais.
Est-ce que tu donnes aussi des personnalités aux lettres et aux chiffres ?
Alors oui.
La synesthésie, c'est automatique et inconscient.
Bah, par exemple, le P, c'est un homme. Il est fort, il est musclé. Il ferait genre un métier genre artisanal ou un truc comme ça. Il aurait une coupe en brosse.
Tandis que habileté à mémoriser, on va dire, cette astuce de mémorisation, ce moyen mnémotechnique, c'est quelque chose de volontaire et d'appris, qu'on va faire consciemment.
Est-ce que quand on tente de lier un mot, une chose à une autre idée, à un souvenir, c'est fabriquer de la synesthésie?
C'est un peu l'équivalent volontaire de la synesthésie qui, elle, est involontaire, la synesthésie. Si vous voulez, si l'on veut renforcer ses capacités de mémorisation, eh bien, ça fonctionne un petit peu de la même façon. On va associer une modalité sensorielle, par exemple un son, typiquement un mot, avec d'autres modalités sensorielles, par exemple quelque chose de visuel qu'on va essayer de se représenter, quelque chose de tactile que l'on peut avoir en main, quelque chose d'olfactif ou de gustatif, et le fait d'avoir cette multimodalité va considérablement renforcer le souvenir.
Je ne ferai jamais de synesthésie. Mon cerveau n'est juste pas câblé comme ça. Je retourne alors, quelques jours après le début de mon défi, discuter avec Sébastien Martinez de mes difficultés pour apprendre mes mots d'espéranto.
En fait, tu me disais de trouver des sortes de points de comparaison, des images qui peuvent correspondre à chaque mot. Et j'ai souvent l'impression de m'arrêter à la première idée que j'ai, qui va peut-être pas assez loin. Par exemple, je te donne un exemple. En espéranto, chaussure, ça se dit chouaille. Et je pense juste à du chou et de l'ail. Mais bon, là, je m'en souviens parce que je l'ai révisé. Mais je trouve c'est un peu bizarre, chou, aille, chaussure. Enfin, il n'y a aucun lien, quoi.
Alors là, c'est très bien, là, ce que tu me dis. Parce que là, tu as donc une chaussure, tu vois à quoi ça ressemble. Chouaille, tu l'as associé à un chou et un ail. Maintenant, peut-être, est-ce que tu as bien fait une histoire entre tes chaussures, ton chou et ton ail?
Bah, à un moment, je me suis dit, je vais imaginer une corbeille de fruits avec du chou, de l'ail et des chaussures dedans. Et je trouvais ça très marrant. Mais bon.
Ça peut marcher, rien que ça. Moi, je sais que j'aime bien dans les histoires de créer du mouvement, faire vraiment des interactions. Ça peut être le chou qui joue, qui tape dans de l'ail, ou des têtes d'ail qui tapent avec des chaussures dans un chou, tu vois. Et ça te permet de vraiment de créer du mouvement avec les images pour mieux t'en souvenir. Mais c'est hyper important de faire des erreurs. Hein. Souvent, il y en a qui disent, ben moi je fais des erreurs, c'est mauvais. Donc c'est bien de faire des erreurs. Et même ce que je te conseille, teste, tu mets 5 minutes et tu fais en sorte de faire tes 10 en 5 minutes. À la fin des 5 minutes, tu te testes et forcément, il y aura des erreurs. Et c'est que sur ces erreurs que tu vas te corriger. Tu vois, tu vas faire le même mécanisme que je t'ai dit là juste avant. Tu vas essayer de trouver est-ce que c'est l'association ou est-ce que c'est l'histoire qui a bloqué. Tu vas la corriger et au moins, ça va te permettre de gagner du temps. Tu vois, parce qu'il y aura plein de mots qui vont s'associer spontanément, donc tu vas aller vite. D'autres où ça va pas marcher. Et tu vas pouvoir comme ça progresser en vitesse.
La suite, au prochain épisode. Devenir Lady Memory est une série de podcasts 100% réalisée et autoproduite par moi-même, Anouk Perry. Illustration par Léa Castor. Merci à Sébastien Martinez pour sa confiance sur ce projet. Et si vous voulez m'aider à grandir, mettez-moi 5 étoiles et postez des commentaires sur Apple Podcasts. Ici Anouk Perry, et je vous embrasse.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.